Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. C'est Paul qui dit ceci à Pierre, dans Galates chapitre 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est un moment un peu embarrassant pour l'apôtre Pierre, le soi-disant premier pape de l'Église. C'était un bon juif, Pierre. Il était bourré de complexes, de supériorité, le pauvre, vis-à-vis des païens. Le Seigneur a eu beaucoup de mal à le faire aller chez Corneille. Et le Seigneur n'a pas attendu que Pierre impose les mains sur les païens qui étaient là dans son auditoire. L'Esprit Saint est tombé directement sur les gens. Il fallait cela pour convaincre Pierre et ses collègues à Jérusalem. Mais un jour, Pierre se trouvait à Antioche. Il avait fait quand même quelques progrès dans son acceptation des non-juifs au point qu'il a consenté à manger avec eux. C'était, je suppose, un de ces bons repas en commun que nous baptistes on affectionne. Et l'Église baptiste d'Antioche avait un repas en commun. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et Pierre se trouvait là parmi quelques non-juifs, des frères en Christ, et Paul était là également, et tout allait bien. Mais tout le monde à Jérusalem n'était pas de l'avis de Pierre, tout le monde n'avait pas cheminé aussi loin que l'apôtre Pierre, et lui-même n'était pas très sûr dans sa conviction. Et quand ces juifs sont arrivés, eux qui n'avaient pas jamais mangé avec des non-juifs, qui ne voulaient pas manger avec des non-juifs, qui avaient gardé pas mal leur observation de la loi de Moïse, Pierre se lève, s'esquive et fait semblant de n'avoir pas mangé avec les chrétiens dans cette salle. L'apôtre Paul voit le comportement de Pierre et il l'apostrophe à travers la salle de repas en commun et lui dit en présence de tout ce monde, et devait avoir peut-être des dizaines, peut-être même une centaine ou 200 personnes, nous ne savons pas. Peut-être il y avait beaucoup de gens à cette réunion, à ce repas. Et il l'apostrophe. Et il lui parle selon un ton et dans un contexte que Pierre pouvait très bien comprendre. Et l'apôtre Paul parle un petit peu comme pourrait parler un catholique qui aurait abandonné son catholicisme pour se convertir à Jésus-Christ. Il dit, nous, toi et moi, nous sommes bien des juifs de naissance. Nous ne sommes pas des pécheurs d'entre les païens, comme le sont beaucoup de nos frères ici. Néanmoins, toi et moi, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons été justifiés. C'est bien par la foi en Jésus-Christ. Puis il le redit, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il dit de manière positive, et puis il dit de manière négative. Et là, nous avons le sujet, la justification des différences irréconciliables entre la doctrine romaine et la doctrine biblique. Dans le document évangélique et catholique ensemble, la mission chrétienne du troisième millénaire, la question de la justification par la foi seule n'est pas traitée. Donc, soit l'Église catholique a changé son point de vue, ce qui n'est pas le cas, on l'a appris en long et en large aujourd'hui, soit les évangéliques ont tout simplement oublié d'évoquer la question, ce qui est peu vraisemblable, soit ils pensent, les évangéliques qui ont signé ce document doivent penser que cette doctrine-là n'est pas suffisamment importante pour être évoquée. Il n'y a que ces trois possibilités. Alors, je crois que c'est la troisième théorie qu'il faut retenir. Il semblerait que les signataires évangéliques de ce document, et pourtant parmi eux, il y avait M. J.I. Packer, qui a écrit d'excellents livres comme « Connaître Dieu », un homme normalement, un grand théologien, un homme quand même qui a beaucoup de finesse, apparemment, lui-même, avant de signer, n'a pas voulu relever le point que la doctrine de la justification par la foi seule n'est pas explicitée. Il a signé un document sans même s'inquiéter de cela. La doctrine, pourtant, la doctrine de la justification par la foi seule était le point de rupture entre l'Église de Rome et les réformateurs. Nous sommes tous d'accord que les réformateurs ne sont pas allés assez loin. Ils voulaient réformer l'Église de Rome. L'Église de Rome n'a pas voulu de leur réforme. On les a jetés dehors. C'est dommage qu'ils aient continué avec le mot « réformer », puisque finalement, ils ont commencé quelque chose de nouveau. Ils ont gardé certaines doctrines catholiques. Je pense notamment à l'aménénarisme, qui est quand même catholique dans son origine. C'est loin d'être une doctrine biblique du Nouveau Testament. Et un certain nombre d'autres, le pédobaptisme, et même quelques aspects de la substantiation dans ce que nous appelons le repas du Seigneur, la consubstantiation, la présence spirituelle du Seigneur dans les espèces. C'était une réforme à mi-chemin. Mais là, au moins, là où ils ont dit, nous ne pouvons pas rester, nous sommes autre chose, nous ne pouvons pas rester dans le giron de l'Église de Rome, c'était le point de rupture, c'était la justification par la foi seule. Et tout le monde se souvient de l'histoire de ce moine augustinien, professeur de théologie à Wittenberg, le jeune Martin Luther, qui après des années de lutte, de complexe, d'angoisse pour le salut de son âme, la lumière de l'évangile se fait claire dans son esprit, le juste vivra par la foi. Et là-dessus s'est basée toute sa lutte. Alors si nous ne proclamons pas cette doctrine clairement, notre doctrine du salut est minée dans ses fondements mêmes. Il n'en restera rien. Si la justification n'est pas par la foi seule, alors on n'a plus une doctrine biblique de justification. Alors premièrement, j'aimerais évoquer ce soir l'identité d'un évangélique. Qu'est-ce que c'est un évangélique normalement? J'espère que nous nous considérons tous ici comme des évangéliques. J'espère qu'on ne se considère pas que comme des évangéliques, parce que le mot couvre beaucoup de gens qui normalement ont en commun quand même la justification par la foi seule. Jusqu'à présent, on pouvait penser que tous les évangéliques pensaient qu'on était justifié par la foi seule. Maintenant, on se pose des questions, puisqu'il y a des gens qui se réclament non évangéliques et qui ne semblent pas s'inquiéter de la manière dont on est justifié. Mais enfin, un évangélique, déjà, il croit ce qu'on appelle le symbole ou le credo des apôtres, qui résume essentiellement l'identité et la biographie de Jésus-Christ. Hein? Ensuite, il croit à peu près tout ce qui a été dit au concile de Nicée, c'est-à-dire la Trinité. Il y a trois personnes de la même essence divine, égale, coéternelle, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Nous croyons ces choses-là. Nous croyons certains éléments du concile de Chalcédoine sur les deux natures de Jésus-Christ. Il est à la fois entièrement humaine, entièrement divine. Ces deux natures sont sans mélange, sans séparation. Jésus est né sans péché originel. En lui, il n'y a jamais eu de péché. Alors jusqu'à présent, les catholiques et même le catéchisme pourraient dire « nous sommes d'accord ». Nous sommes d'accord sur tous ces points-là. Mais à partir d'ici, les chemins divergent. Car à la réforme, il y a deux grands principes. Sola scriptura, seules les écritures font autorité pour toute la doctrine. Là, il y a une rupture. Je pense que les réformés ne sont pas allés jusqu'au bout de ce principe. Ils ont découvert que seules les Écritures enseignent la justification par la foi seule, mais s'ils avaient davantage étudié les Écritures, s'ils n'avaient pas été enfermés un peu dans leurs idées reçues par rapport à l'Église et l'État, peut-être seraient-ils allés plus loin, plutôt que de baptiser définitivement des baptistes en les noyant, peut-être ils auraient découvert d'autres principes bibliques que nous chérissons. En tous les cas, ils ont proclamé que seules les Écritures sont la base d'une doctrine fidèle à Dieu. Et puis, sola fide, évidemment, par la foi seule et par la grâce seule, nous sommes justifiés devant Dieu. Alors, comment se fait-il que les réformateurs soient arrivés à la conclusion que l'Église de Rome n'est plus ou n'est pas une Église chrétienne? Nous avons entendu cela plusieurs fois aujourd'hui. L'Église de Rome n'est pas une Église chrétienne. En fonction de quoi? Les réformateurs ont formulé 4 thèses qui s'enchaînent. Première thèse, la justification par la foi seule est essentielle à l'Évangile. Sans cette doctrine-là, l'Évangile n'est plus. La deuxième thèse, l'Évangile est essentiel au christianisme et au salut. La troisième thèse, l'Évangile est essentiel pour qu'une église soit une véritable église chrétienne. Et quatrième thèse, rejeter la justification par la foi seule, c'est rejeter l'Évangile et c'est ne plus être une église chrétienne. Et à cause de ce raisonnement qui est parfaitement fondé, qui est parfaitement logique, les réformés en ont conclu, après quelquefois des luttes, etc., ils en ont conclu que les papistes, l'Église catholique romaine, n'étaient pas une Église chrétienne. Nous savons que depuis quelques dizaines d'années, l'Église réformée, aujourd'hui, sous sa forme actuelle, est revenue en arrière sur ses thèses. Ils ont oublié les convictions de leur fondateur. Et maintenant, il y a un doux écuménisme qui règne parmi les protestants et les catholiques. C'est de la plus grande tristesse. Voilà donc, normalement, voilà ce que c'est un évangélique. Mais aujourd'hui, deuxième point, il y a donc une grande confusion dans le camp évangélique. Alors, si un évangélique croit sola scriptura et sola fide, il est évident que l'ennemi va attaquer ces deux piliers de sa foi. Alors, il a commencé, siècle dernier, à attaquer les Écritures avec la soi-disant haute critique. Elle est haute parce que ces critiques veulent se placer au-dessus de la Bible. Mais le mauvais usage de la haute critique, les libéraux ont nié l'inhérence et l'autorité de la Bible. Aujourd'hui, certains évangéliques, et ceci je n'ai jamais réussi à comprendre, ils affirment leur foi dans l'infaillibilité de la Bible, mais pas dans l'inhérence de la Bible. Je ne sais pas comment on peut considérer un document comme étant infaillible tout en n'étant pas inhérente. Et c'est pourtant le jeu sémantique auquel se livrent certains évangéliques. Mais les fondamentalistes croient à l'inhérence de la parole de Dieu et à son autorité absolue. Et donc, avec la haute critique, on a commencé à miner chez les évangéliques. Les libéraux ont commencé à travailler et remettre en doute l'autorité de la Bible. Et donc, il a voulu également, l'ennemi, attaquer sola fide, le salut par la foi seule. Et récemment, il y a des évangéliques de bon aloi, des gens que nous respectons tous, et peut-être y a-t-il eu, je ne suis pas assez qualifié pour prononcer définitivement là-dessus, mais peut-être y a-t-il eu quelques malentendus. Mais on est sauvé par la foi seule. Monsieur John MacArthur et quelques autres ont avancé des thèses, si je les comprends bien, que la foi qui sauve doit obligatoirement produire des œuvres, et ces œuvres devraient se produire immédiatement, et d'autres comme Ryrie et Hodges ont dit que la foi devrait immédiatement produire des œuvres d'obéissance, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a le cas du chrétien charnel qui produit peu ou pas d'œuvres à certains moments de sa vie et qui pourtant a une foi qui sauve. Mais il y avait là un flottement. Un flottement, de quelle manière sommes-nous justifiés? Et c'est cette vieille question que Calvin a résolue à sa manière et avec une belle formule. Il a dit, nous sommes sauvés par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule. C'est-à-dire, comme Jacques le dira dans son épître, tu dis que tu as la foi, La foi sans les œuvres est morte. Une vraie foi produira des œuvres. Et nous sommes tous d'accord que la vraie foi produit des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous justifient. Nous sommes justifiés par la foi seule devant Dieu. Mais nous sommes justifiés par les œuvres devant les hommes. C'est-à-dire, nous pouvons, Dieu et nous pouvons savoir que notre foi est placée dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ et Dieu peut nous communiquer une déclaration légale. Je te déclare juste. Mais comment les hommes vont-ils voir la réalité de cette foi, sinon à travers les œuvres? Donc nous sommes justifiés devant les hommes par la foi, mais pas devant Dieu. Abraham fut justifié par les œuvres, mais pas devant Dieu. Justifié par la foi seule. Et donc nous restons là-dessus, que les œuvres peuvent-elles être séparées d'une foi qui sauve, ou une foi qui sauve comprend-elle un certain nombre d'œuvres? Quelquefois dans nos églises, et ça c'est une question de théologie pastorale, vous avez sûrement eu des gens de votre église qui sont venus, vous ne savez pas ce que fait un certain membre de notre église. Je l'ai vu dans tel magasin, je l'ai vu dans tel lieu d'amusement, je l'ai vu en train de faire telle chose, il y en a un tel qui fume, etc. Il y a un tel qui a volé à l'étalage, vous savez, ça ne peut pas être un chrétien. Moi, jamais je ne pourrais faire une telle chose. Jamais je ne pourrais faire une telle chose. C'est, un chrétien ne peut pas faire ces choses-là. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Il vous pose la question. La réponse est, s'il n'y a jamais eu d'œuvre, jamais eu d'intérêt pour les choses de Dieu. Si quand la personne pêche, s'il n'y a jamais eu aucune repentance de péché, si la personne ne voit pas du tout le péché dans lequel il est tombé, peut-être il ne veut pas l'avouer tout de suite, mais s'il n'y a aucune conviction de péché dans son cœur, c'est qu'un des signes vitaux les plus importants manque. Il n'y a pas de vie spirituelle. Il y a une profession intellectuel, mais il n'y a pas de vie spirituelle. L'esprit de Dieu est attristé avec le péché. S'il n'y a aucune tristesse, il n'y a aucun esprit de Dieu qui est attristé. Quelquefois, on attend certaines formes de tristesse, certains signes de tristesse. Toutes les tristesses ne se montrent pas de la même manière. Toutes les tristesses ne sont pas immédiates. Mais s'il n'y a jamais une œuvre d'un travail de l'esprit de Dieu dans cette personne-là, on peut effectivement douter qu'il ait une foi qui sauve. Donc la foi va produire des œuvres, mais ces œuvres ne sauvent en rien la personne, surtout pas devant le Seigneur. Mais alors, sola fide, justification par la foi seule, est absente de ce document évangélique et catholique ensemble. Voilà ce que proclament les signataires. Et je cite, « Comme Christ est un, la mission chrétienne est une. » Et Christ et cette mission chrétienne incluent beaucoup d'autres chrétiens que les évangéliques et les catholiques, notamment les orthodoxes orientaux et des protestants qui ne sont pas identifiés comme évangéliques. Fin de citation. Ceux qui font se réclament du nom de Christ vaguement dans la tradition catholico-protestanto-évangélique de quelques coins de la planète qu'ils se trouvent, finalement ces gens-là sont en Christ qui est un et participent à la mission chrétienne qui est une. On peut se poser la question si les protestants qui ne sont pas identifiés comme des évangéliques, comment peuvent-ils participer à l'évangélisation? Quelqu'un qui n'est pas évangélique croit-il l'évangile? Alors, un peu plus loin, ils disent ceci, et je cite, « Tous ceux qui acceptent Christ comme sauveur et Seigneur sont frères et sœurs en Christ. Les évangéliques et les catholiques sont frères et sœurs en Christ. » La question qui se pose, c'est qu'est-ce que donc qu'accepter Christ comme sauveur et Seigneur, qu'est-ce que ça signifie de l'accepter comme sauveur et comme Seigneur? Est-ce que cela implique une foi dans l'évangile biblique? Est-ce que donc la justification se fait par la foi seule, ou avec l'adjonction des sacrements et des œuvres. De quelle espèce est cette foi? De quel, par quel moyen trouve-t-on la justice devant Dieu? Nous pourrions prendre les Mormons et faire évangélique et Mormons ensemble, mission chrétienne pour le troisième millénaire, tant que nous y sommes. Et avec les Mormons, nous pourrions dire, nous croyons à la prééminence et à la préexistence de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient à la prééminence et à la préexistence de Jésus-Christ sont frères et sœurs en Christ. Il y a beaucoup de gens qui pousseraient de hauts cris. Même des catholiques pousseraient de hauts cris. Et pourtant, c'est ce que certains évangéliques ont fait avec les catholiques et beaucoup de gens trouvent ça normal. Et il y a autant de choses qui nous séparent de l'Église de Rome que de celle de Joseph Smith. L'Église catholique, donc, qui rejette cette doctrine, peut-elle être appelée une vraie Église chrétienne? Apparemment, les signataires de ce document croient qu'on peut effectivement les appeler chrétiens. Parce que, voyez, la divergence doctrinale sur la justification n'est plus essentielle au christianisme, ni au salut personnel. Au fond, ces évangéliques, s'ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement, disent, si un catholique a la foi en Jésus-Christ et qu'il estime qu'il faut un certain nombre de sacrements, c'est un détail mineur. Nous, nous pensons que la foi en Jésus-Christ et son sacrifice suffisent sans des œuvres et sans des sacrements. Et donc, finalement, notre point de vue et leur point de vue sont similaires. Et tout ce qui nous sépare, c'est notre esprit de clocher. Tu penses que chacun veut avoir raison. Mais au fond, c'est une différence mineure. Quelles sont donc les ressemblances et les divergences entre catholiques et évangéliques? Les ressemblances. Évangéliques et catholiques croient au salut par la foi. Évangéliques et catholiques croient au salut par la grâce. Évangéliques et catholiques croient au salut par Jésus-Christ. Quelles sont donc les divergences? Les évangéliques ajoutent le mot « seul » à toutes ces phrases. Rome ajoute le mot « par l'Église » à toutes ces phrases. Alors, ça dépend où on met le point et ce qu'on ajoute après ce point. Alors, qu'est-ce que donc la justification biblique? Je vais d'abord développer cela et puis développer la justice, la justification selon la doctrine de l'Église de Rome. La justification biblique, premièrement, est un besoin absolu. C'est un besoin absolu pour tous les hommes d'être déclarés justes devant Dieu. Pourquoi? Imaginez que cette planète soit une grande salle de tribunal et que tous les êtres humains, les 6 ou 7 milliards que nous sommes, sont tous à la barre des accusés. Dieu est assis sur son trône de juste. Très rapidement, des évidences apparaissent. Dieu est juste et il va juger selon une justice absolue. Nous, à la barre des accusés, avons tous le même problème, aucun de nous n'est juste, pas même un seul. Et, selon Romains 3, verset 20, la loi de Dieu ne saurait nous justifier, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par conséquent, pour nous tous, les accusés dans le box des accusés, et face à ce juge divin, nous venons de perdre une option. Nous ne pourrons pas être justifiés par la loi. Pour la simple raison, si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister? Et voici que le procès se termine ainsi, avec tous les accusés dans le box, condamnés à perpétuité en enfer. Et tous, nous les accusés, autant que le Dieu qui nous a jugés, doivent conclure que la justice a été satisfaite et que le jugement est juste et droit et on ne peut rien dire contre ce jugement. Il est conforme aux exigences du juge. Et nous sommes autant convaincus que Dieu que nous méritons l'enfer. Et il n'y a plus rien à ajouter. Ça, c'est si nous nous plaçons devant Dieu juste. Par conséquent, la justification est un besoin absolu. Il en faut pour ne pas aller en enfer. La justification biblique doit relever d'une justice absolue. Alors, c'est un besoin absolu et ça doit être une justice absolue. C'est la justice même de Jésus-Christ qui est donnée aux pécheurs croyants. Cette justice qui nous vient, vient à l'extérieur de nous. Elle n'est pas en nous. Elle n'est pas quelque chose qu'on puisse atteindre, qu'on puisse arracher, qu'on puisse acheter, qu'on puisse se procurer. Ce n'est pas plus le système débrouille-toi. On ne peut pas se débrouiller pour trouver un moyen d'être juste. Il faut que cette justice, c'est un produit d'importation. Il faut qu'elle soit importée sur nous. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur à nous. Et elle s'obtient uniquement par la foi. La troisième chose, c'est que la justification par la foi relève d'une foi vivante. D'une foi vivante. Et les réformateurs ont insisté sur la nature de cette foi. Il y a trois mots latins qu'ils ont souvent utilisés. La foi vivante comprend trois notions. Regardons 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire les deux premiers versets. Vous connaissez les versets 3 et 4. Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Il insiste beaucoup ici. « Dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Si vous mélangez les termes, si vous mélangez les pédales par rapport à ce message, vous ne pouvez être sauvé. Alors, la première partie de cette foi, en latin, notitia, la notion ou une connaissance objective, une connaissance du contenu de l'évangile. Et nous savons que c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ selon les Écritures. Pour être sauvé par la foi, cette foi seule, comprend un aspect contenu. Qu'est-ce que je crois? Très important. Deuxième partie de cette foi, les latins diraient un assensus, nous on dirait un assentiment intellectuel. Il faut une assurance ou une conviction qu'une telle proposition est vraie. Non seulement il faut savoir ce qu'est l'évangile, intellectuellement, mais il faut avoir la conviction dans son âme et conscience que cet évangile est vrai. En assentiment intellectuel. Et puis, il faut une troisième partie qu'on appelle, pourrait appeler fiducia. C'est le côté foi. C'est une disposition positive de l'âme ou de la pensée vers un objet. C'est la volonté, le désir de placer sa confiance. C'est le côté cœur de la foi. Satan n'a pas cet aspect de la foi. Satan, vous savez, il croit l'évangile. Il est obligé d'y croire. Côté notitia. Il sait que c'est vrai. Il ne peut pas le nier, même si c'est un menteur. Je ne sais pas s'il peut dire que quelque chose est vrai puisqu'il ment tout le temps. Mais au fond de son âme, il doit savoir que c'est vrai. Il doit quand même savoir que Dieu est vrai. Mais alors, chez lui, il n'y a aucun côté cœur. Il n'y a aucun désir de placer sa confiance en Christ. Il lui vaut une haine implacable. Mais le pécheur qui va venir à Jésus-Christ doit aimer Christ, le désirer, c'est la repentance, c'est le changement de la pensée. Et alors ça, c'est la différence entre une véritable conversion et une profession de foi. Nous voyons nombre de professions de foi. Très souvent, il y a les deux aspects. Une connaissance, on montre Romains 3, 23, Romains 6, 23, Romains 5, 8, Jean 3, 16, 1 Jean 5, 13, etc. Et la personne a une connaissance, puisqu'elle a compris les principes. On peut même poser des questions. Vous voyez que nous sommes pécheurs. Oui, je le vois, je le comprends, le texte, etc. Notitia. Ensuite, on demande à la personne, mais vous croyez que c'est vrai? Oui, moi, je suis disposé à croire ça. Oui, je ne vois pas pourquoi je le nierais, ça me paraît évident. Alors voulez-vous faire une prière avec moi et recevoir mon... Oui, je sais que c'est vrai, alors pourquoi je ne prierai pas? Et alors vous priez et puis vous êtes tout content, ça y est, une âme s'est convertie. Puis vous ne voyez rien qui change. Il se peut qu'il manque ce côté en désir. J'ai rencontré des gens qui avant de prier ont dit, non, écoutez, je crois que c'est vrai, mais ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne dit rien de le faire maintenant, c'est pas la peine de les faire prier, hein. C'est pas la peine de, écoutez, vous allez quand même prier avec moi, il faut quand même que j'ai gagné quand on a le Christ aujourd'hui et je suis... Il manque le côté élan de cœur. Il manque un désir de Jésus-Christ. Il faut venir à lui. C'est un changement dans la pensée. C'est la repentance. Le gars, il dit, mais je suis sur une mauvaise piste, mais je vais vers la mort éternelle, mais j'ai besoin de me tourner et de me tourner vers Jésus-Christ. Mais où est-ce que je suis là? Je suis en danger. Seigneur, sauve-moi. Il faut ça pour être sauvé. Il faut les trois choses. Alors, cette justice est une justice imputée. C'est une déclaration légale de notre justice. De la justice du Christ donnée, plaquée sur nous. Cette justice imputée vient au début de la vie chrétienne. Au début de la vie chrétienne. Et dure pour toute l'éternité. Donc cette justice n'est pas quelque chose inhérent en nous, c'est pas quelque chose qui vient de notre être, c'est quelque chose qui vient à nous d'ailleurs. Et en Luc 18, verset 14, on a un bel exemple. Verset 13, le publicain, dans le temple, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Alors, on cherche en vain dans ce texte une œuvre que le publicain aurait fait pour s'attirer la faveur de Dieu. Tout ce qu'il sait dire, c'est qu'il est pécheur et il demande la miséricorde de Dieu. Verset 14, Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, quoi? Justifié. La justification par la foi, la justification par la repentance, la justification sans les œuvres, sans aucune œuvre dans le cas de ce publicain. Ensuite, nous sommes revêtus de la justice du Christ. J'aimerais qu'on voie ça en Zacharie. Il y a ceux qui sont tentés de croire que la justification par la foi seule, c'est une doctrine du Nouveau Testament seulement. Ils se trompent. L'homme a toujours été sauvé de la même manière, par la justification, par la foi. Par la foi dans ce que Dieu a révélé de lui-même. Abraham a été sauvé de cette manière. Josué, ici le souverain sacrificateur, est sauvé de cette manière, justifié. Regardez ce que Dieu dit au sujet de ce Josué qui est habillé en haillons, verset 1er, Zacharie chapitre 3. Verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel tu réprimes Satan, etc. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ce pauvre homme était un homme qui allait en enfer. Il était arraché des feux de l'enfer. Il était condamné par lui-même. Le Seigneur l'arrête et veut le sauver. Et il est habillé de vêtements sales, verset 3, symbole de notre justice à tous. Verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » La justification par la foi, c'est le revêtement par ordre de Jésus-Christ, de la justice de Jésus-Christ, sur le pécheur qui n'en est pas digne. C'est l'enlèvement des haillons de sa propre justice et c'est le revêtement de la justice de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul le dit, vous qui êtes en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtu Christ. Jésus-Christ nous donne sa justice. C'est la justice qu'il a parfaitement établie pendant son incarnation par une vie sans péché. Et comme disait un théologien, alors ça, je n'ai jamais entendu ce mot employé dans ce sens, mais il dit, notre justice est une justice synthétique. Alors, attention, je ne parle pas de synthétique comme synthétique et authentique, mais l'idée de synthèse, synthèse. Il donne un exemple. Si vous dites, le célibataire est chauve, vous avez le mot « et » là-dedans, en verbe « être ». Vous avez le mot célibataire et puis vous avez le mot chauve. Si vous dites le célibataire n'est pas marié, ça c'est une analyse, une phrase analytique. C'est-à-dire vous dites la même chose après le verbe que vous dites avant le verbe. Si vous dites le célibataire est chauve, vous donnez un détail après le verbe qui n'est pas dans le sujet. Et bon, de la même manière, Dieu dit « je te déclare ». Qu'est-ce qu'il va me déclarer ? Je suis pécheur, en fait. On m'analyse, je suis pécheur. Je te déclare juste. Juste, oui. Mais en moi, je sais, en voyant rien. Je viens et je plaque ma justice sur toi. Je te déclare juste, c'est une déclaration légale, et à mes yeux, tu es juste. C'est dans ce sens que ça vient sur nous, c'est extérieur à nous, c'est non mérité par nous, c'est donné par Jésus-Christ à nous, et Dieu nous considère comme tel la justification légale, donc par la foi. Maintenant, la justification romaine. Alors, les romanistes, les catholiques comprennent très bien la doctrine de la justification par la foi seule. Ils comprennent très bien notre idée de la justice du Christ qui nous est imputée. Vous savez ce qu'ils appellent ça? Ils appellent ça de la fiction légale. C'est de la fiction légale. Vous dites que vous êtes justifié par la foi. Mais regardez-vous un peu. Vous n'êtes pas juste en vous-même. Vous n'avez pas le moindre brin de justice. Vous dites que vous venez de vous convertir à Jésus-Christ. Vous n'avez aucune œuvre méritoire, vous n'avez rien. Vous êtes bourré de péché, ça y est, vous êtes juste. Et soi-disant parce que Jésus vous le déclare, c'est de la fiction, disent-ils. Ils disent, Rome dit, le pécheur doit devenir juste avant d'être déclaré juste par Dieu. Ils disent, Dieu, bien sûr, il veut vous déclarer juste, mais il faut quand même avoir un brin de justice. Il faut avoir développé quelque justice à travers notre Église, à travers les rites, les sacrements, etc. Et nous sommes là pour vous permettre d'avoir les moyens de constituer une certaine justice. Que Dieu ne manquera pas de voir et de reconnaître en vous déclarant juste. Alors la justification par la foi seule, façon baptiste et biblique de le croire, est une déclaration légale qui vient au début de la vie chrétienne. La justification par la foi, par la grâce et par Jésus-Christ, selon l'Église catholique, vient à la fin du parcours. Vous commencez votre parcours et à la fin, vous recevez la déclaration de Dieu, tu es juste. C'est tout à fait le contraire. Alors la doctrine de la justification romaine, d'abord, c'est une doctrine qui se définit, qui est en train toujours de se définir. Chaque concile catholique donne des détails supplémentaires. Mais l'Église de Rome ne peut pas se corriger. Tout ce qu'elle peut faire, c'est redéfinir sa doctrine. Elle ne peut pas se rétracter. Vous le savez, soi-disant, le pape, quand il parle ex cathedra, sur une question de foi, de doctrine, il ne peut pas se tromper. Donc, on ne peut pas dire, comme notre frère disait, et s'il disait, oups, on s'est trompé, ils ne peuvent pas le faire. C'est la loi des Mèdes et des Perses, à Rome. Ils peuvent redéfinir, donner un détail qui avait échappé jusqu'à présent à notre vigilance. Hein. Oui, mais enfin, en disant ça, et bon, ils peuvent le tourner, mais ils ne peuvent pas rétracter tout simplement ce qu'ils ont dit. Et c'est pour cela que ceux qui vont lire les catéchismes de 92 et les catéchismes dans 30 ans, si Christ n'est pas venu avant, seront toujours déçus. Parce que c'est une organisation qui ne peut pas se tromper selon elle. Et donc, qui ne peut pas changer. Alors, ils disent, les catholiques disent, on est justifié par la foi. Ils disent ceci, la foi est le commencement, le fondement et la racine de toute justification. C'est pas mal, hein? Le commencement, le fondement et la racine de toute justification. Mais c'est pas par la foi seule. Troisième chose, l'instrument de la justification. On se pose la question, on est là, bon catholique, vous avez un bébé, vous dites à votre prêtre, je voudrais savoir comment mon nourrisson peut recevoir la justification devant Dieu. De quelle manière peut-il l'obtenir? Alors ils vont dire, le moyen d'obtenir cette justification est par le baptême et la pénitence. Le nouveau catéchisme dit ceci, la justification est conférée par le baptême, qui est le sacrement de la foi. Sauvé par la foi, non? Justifié par la foi, tout à fait. La foi qui est conférée au nourrisson par le baptême. Alors, ce baptême et ce sacrement nous rendent conformes à la justice de Dieu. Ce qui nous rend juste intérieurement, regardez bien, on devient juste intérieurement par la puissance de sa miséricorde. On voit tout de suite, ils disent, la justice doit être d'abord en vous. Et donc, la première justification, la première semence, la racine de votre justification vient en vous par le sacrement du baptême. Évidemment, il n'y a que l'Église catholique qui peut donner ce sacrement. C'est pour cela que Camporas dit, il faut que les gens deviennent non seulement chrétiens, il faut qu'ils deviennent catholiques, car en effet, si vous n'avez pas le baptême catholique, vous n'avez pas la racine de la foi qui vous rend juste intérieurement. Alors, la justification, selon l'Église de Rome, peut être perdue par l'infidélité. Si vous reniez la foi catholique, vous perdez à tout jamais la justification. Si vous commettez un péché mortel, vous ne perdez pas la foi, mais vous perdez la justification. C'est pour ça que la pénitence est là. Alors, prenons un exemple. J'ai 3 mois, mes parents me font baptiser, je reçois dans mon être, par la miséricorde de Dieu, la foi et la justification devant Dieu. Disons, la racine de la justification. Je vis quelques années, je commets un péché mortel. Je perds la justification, je ne perds pas la foi. Pour retrouver cette justification, cet état de justification qui est en train de constituer cette justification, pour retrouver ce que j'ai perdu, je dois faire pénitence. Et quand je fais pénitence, la justification m'est restituée. Bon. Cinquième chose dans cette doctrine, la source et la sauvegarde de la justification repose sur la justice divine, car elle nous vient de Dieu par, attention, infusion. La justice de Dieu vient dans mon âme, disent les catholiques, par infusion. Quel est notre terme? Imputation. Ce n'est pas du tout la même chose. Infusion, c'est que la justice de Dieu est comme une sorte de... Non, mais on fait des infusions ici, hein. Prenez un verre d'eau ou chaude et vous mettez un sachet et ça infuse et ça remplit et ça colore et ça parfume l'eau. Et la justice de Dieu descend dans l'âme d'un bon catholique et commence à se répandre dans les fibres de son être, dans les fibres de son âme. Et ça vient de Dieu et Dieu déclare juste, attention, ceux qui ont maintenant la justice inhérente. Qu'est-ce que c'est inhérente? C'est une justice qui est en vous, qui n'est pas venue comme ça. C'est pas imputé, c'est quelque chose qui a eu le temps de grandir, de remplir votre être, votre âme. La justice de Dieu est effectivement là. Alors cette dernière phrase, c'est du Concile de Trente. Alors, le Concile de Trente ajoute ceci. Celui qui n'accepte pas fermement et fidèlement cette doctrine ne peut être justifié. Si vous n'acceptez pas le principe de l'Église de Rome, que la justice de Dieu s'infuse en vous, qu'elle vient par le baptême, qu'elle est sauvegardée par la pénitence, si vous ne croyez pas toute cette doctrine de l'Église de Rome, vous ne pouvez pas être justifié. Alors, nous avons, pour les signataires de ce document, d'une part, les évangéliques qui semblent avoir oublié, ou qui négligent en tous les cas, la doctrine de la justification par la foi. Et de l'autre côté, vous avez des catholiques qui ne croient pas une seule seconde que leurs amis évangéliques sont justifiés. Et ils ne croient pas qu'ils puissent jamais être justifiés. Et pour cela, dans leur sincérité, si toutefois ils sont sincères, mais s'ils sont sincères, ils voudraient arrêter le prosélytisme des évangéliques tout en les catholicisant au maximum, parce que ce n'est que dans l'Église de Rome qu'ils pourront être justifiés. Parce que si on ne croit pas leur doctrine, on ne peut pas être justifié devant Dieu. Cette doctrine fait sujet d'un anathème, le Concile de Trente jetait l'anathème sur ceux qui croyaient que la justification s'obtenait par l'imputation de la justice du Christ et par la foi seule. Alors c'est exactement ce que nous croyons. Nous croyons que la justice de Dieu vient par la foi seule et c'est imputé. Et ils disent, si vous croyez ces deux choses-là, vous êtes anathème, de toute façon vous êtes maudit par Dieu. Alors, l'Église catholique ajoute quatre autres moyens de justification. Nous en avons parlé de deux. Nous avons parlé le nourrisson par le baptême reçoit la racine de sa justification et reçoit la foi. Il va un peu plus loin. Il va sûrement commettre quelques péchés mortels. Il perd la justification. Il la retrouve en faisant pénitence. Mais ce n'est pas suffisant que d'être dans un état de grâce, comme ils disent, puisqu'il y a quand même des péchés qui s'accumulent, même des péchés véniels, etc. Et donc, il faut d'autres moyens ajoutés à ceci. Il faut les œuvres de satisfaction. Quand vous avez fait votre pénitence, vous avez dit plusieurs jours au Salut Marie, etc. Et après, il y a des actes de réparation pour satisfaire Dieu et obtenir le pardon après la pénitence. Des œuvres dites de satisfaction, pour satisfaire Dieu. Ensuite, il y a le trésor de l'Église. Alors, le trésor de l'Église, ceci est tout à fait extraordinaire. Ils disent premièrement que l'œuvre de Jésus-Christ constitue un trésor infini, retenez-moi infini, de mérite. Et ces mérites infinis de Jésus-Christ sont complétés, ça c'est pas mal, les choses infinies qui peuvent être complétées par, c'est cela ce qui m'a choqué, par les œuvres et les vertus de la Vierge Marie et des saints. Et l'ensemble de ces mérites, c'est pour seconder, pour aider le pénitent dans le paiement de ses péchés et pour écourter son temps au purgatoire. Donc, quand un bien-aimé meurt, on fait une messe de neuvaine, le prêtre lève l'hostie, vous avez payé votre participation, vous pouvez même payer des cierges, etc., mais vous payez des messes, et le prêtre demande que le temps de purgatoire de votre bien-aimé défunt soit écourté. Mais comment le Seigneur peut-il écourter ce temps de purgatoire, simplement sur une prière? Eh bien, cet argent et cette messe sont virés sur le compte en banque de l'Église de Rome, je parle uniquement spirituellement maintenant, sur le compte en banque spirituel de l'Église de Rome, et on prend la valeur correspondante des mérites de Jésus, de Marie et de la Vierge, et ça, c'est appliqué sur le compte de votre cher disparu. Et la somme de ce mérite viendra l'aider à écourter son temps purgatoire, tout simplement. Et ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi partout en France sont construits des cathédrales, des abbayes, parce que les seigneurs ont donné une large partie de leurs terres et ont financé des églises parce que on disait, vous aurez une énorme partie de ces mérites de Jésus-Christ, des saints et de la Vierge Marie, en compensation de votre sacrifice. Et donc, pour sauver son âme, on est prêt pratiquement à dépenser sa fortune. Ensuite, après avoir joui autant que possible, après avoir puisé le plus possible que vos amis et vous-même, parce qu'on peut aussi s'acheter des indulgences pendant sa vie, et donc commencer déjà le paiement, il y a le purgatoire. Donc, il faut achever la justification en purgeant les péchés terrestres. Et puis, tout au long de votre vie, si vous êtes un fidèle et vous collaborez avec la grâce de Dieu, vous accumulez également des mérites personnels. Ok? Souvenons-nous, la justification, c'est un long processus. Premièrement, le baptême démarre le processus. La pénitence permet que j'efface le péché mortel qui m'a perdu la justification, je la retrouve. Je collabore avec la grâce de Dieu dans ma vie, j'obtiens des mérites de mon vivant. J'achète des indulgences et diverses autres choses, et Dieu puise dans les mérites de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints pour me les communiquer. Et tout ce qui me reste en suspens à ma mort, je l'achève de payer au purgatoire. Et quand je finis le purgatoire, et quand je me présente, n'est-ce pas, devant Saint-Pierre, devant le Seigneur, pour entrer au paradis, le juge juste vient en disant, mon enfant, tu es maintenant juste. Et là, je reçois la justification. Et quand je reçois la justification, j'entre au paradis. Alors, c'est exactement le contraire de la doctrine biblique. Et ça mène à notre fin ici. C'est donc, on va parler de ça, une justice analytique. Hein? Comparaison avec une justice synthétique. Je reprends ma phrase du célibataire. Le célibataire n'est pas marié. Ça crève les yeux. Ça c'est une analyse. Hein? Vous, le célibataire, vous analysez. Bon, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il n'est pas marié. Donc, ce qui est derrière le verbe être, c'est exactement la même chose que ce qui est devant le verbe être. En langage spirituel, qu'est-ce qu'on veut dire? Dieu dit, il regarde ce fidèle qui est arrivé, qui a fait tout ce parcours de combattant, hein, et qui a fini le purgatoire, et il regarde ce fidèle, et il regarde dans son âme, et il regarde tout son passé, tout son parcours, toutes ses souffrances, toutes les indulgences, les trésors de l'Église, les mérites divers qu'il a pu accumuler, et le Seigneur dit, je vois maintenant dans ton âme que tu es réellement juste. Et puisque tu es juste, que je le vois, je te déclare juste. Vous entrez. Voilà, une analyse. Et le Dieu de la Bible, il y a la multitude de textes qui le montrent, Dieu nous regarde et dit, je te regarde jusqu'au fond de ton cœur, tu es un pécheur, tu es incapable de te sauver, tu ne pourras jamais accumuler le moindre mérite, et essayer de le faire serait me blasphémer parce que tu croirais que tu peux atteindre ma justice, et une éternité de bonnes œuvres ne suffirait jamais à enlever les péchés que tu as déjà commis, en toi-même et par toi-même, et tout ce qu'on peut dire à ton sujet, c'est que sans ma grâce, tu es irrémédiablement perdu. Et si tu comptes avoir quelque justice que ce soit, il faudra que ce soit la mienne et que je te la donne. Alors, c'est ce que je vais faire. En Jésus-Christ, Jésus-Christ mon Fils a une justice parfaite et infinie. Jésus-Christ mon Fils est devenu homme comme toi. Il a connu toutes les tentations et toutes les sollicitations que tu as connues sans jamais tomber, sans jamais pécher. Et après une vie parfaite, il est allé mourir pour tous les péchés, et son paiement est entièrement satisfaisant en ce qui me concerne, dit le Père. Et mon Fils est ressuscité par la puissance d'une vie impérissable. Et mon Fils, eh bien, il a consenti, il a bien voulu t'imputer sa justice. Et on t'impute à lui tes péchés, et il t'impute sa justice. Et maintenant, tu es revêtu de la justice du Christ, de justice sans faille. Je te vois ainsi, je te déclare ainsi. Crime a été commis, peine a été payée, une substitution a eu lieu. Et maintenant, je te déclare juste légalement par la justice de Jésus-Christ. Alors, il faut choisir quel système de justification on va dans laquelle on va se confier. car les différences sont irréconciliables. Pour Rome, le sacrement, plus la grâce, plus les mérites du Christ, plus nos mérites, aboutissent à la justification, suivie, enfin, pour par faire cela, une vie augmentée en temps de plus obligatoire, et aboutissent à la vie éternelle. En résumé, pour Rome, la foi plus les œuvres égale la justification. Pour le chrétien biblique, la foi égale la justification plus les œuvres. C'est par la foi que nous sommes justifiés et c'est par la foi que nous sommes rendus capables de faire des œuvres qui montrent que cette justification est réelle. Prions Dieu.